Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue est l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
L'association Peul Tabital Poulako accuse l'armée malienne d'avoir exécuté 15 suspects vendredi dernier à Djoura dans la région de Mopti. Suite à cette déclaration, le ministre de la Défense, Tienan Koulibaly, dénonce des allégations infondées et tendancieuses. Selon lui, les personnes tuées à Djoura ont été neutralisées alors qu'ils tentaient de s'évader. Ces accusations sont-elles alors fondées? Pourquoi l'armée tuerait-elle des innocents? Quelles peuvent être les solutions? Où en sommes-nous avec cette situation et que c'est est-il réellement passé à Djoura la semaine dernière? C'est le sujet de ce grand dialogue de ce soir et nos invités sont Nouhoum Sarr de l'association Tabital Poulakou et Mohamed El-Béchir Sengaré d'Amnesty International. Je rappelle que nos tentatives pour compter parmi nous un responsable de l'armée malienne sont restées vaines. Je suis Mohamedou Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le grand dialogue.
Alors, nous l'avons dit, l'association Peul Tabital Poulakou accuse l'armée malienne d'avoir exécuté 15 suspects vendredi dernier à Djoura dans la région de Mopti. Nouhoum Sarr, vous êtes représentant de l'association Tabital Poulakou. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est réellement passé à Djoura la semaine dernière?
Bonsoir, Monsieur Touré. Merci. Bonsoir. À Studio Tamani pour ce débat, pour ce grand dialogue. Je présente mes condoléances les plus attristées aux familles de ces victimes et aux familles de toutes les victimes du conflit que connaît notre pays. Je souhaite prompt rétablissement aux blessés. En effet, à Djoura, précisément dans le village de Nilbal, il y a eu arrestation de 14 individus que l'armée dit suspectés d'être des terroristes. Ils ont été arrêtés à différents endroits et transporté de Nibal à Djoura et après, s'en est suivi une exécution sommaire. Ils ont été froidement abattus.
À Djoura toujours.
À Djoura, sans qu'il n'y ait d'éléments probants qui prouvent leur culpabilité par rapport à ce qui, par rapport aux faits de terrorisme ou aux faits de crimes et de banditisme. Nous insistons, nous persistons, nous signons. C'est une exécution sommaire. Ce sont des exécutions sommaires qui sont malheureusement aujourd'hui devenues monnaie courante dans la lutte contre le terrorisme. La même situation s'était produite il y a deux mois à Sokolo, plus précisément à Nangarbakan, et à Dogo, il y a un charnier qui a été découvert. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation où bien évidemment, des exécutions sommaires, des arrestations arbitraires sont devenues monnaie courante au nom de la lutte contre le terrorisme. Et nous interrogeons comment une armée hiérarchisée peut, d'une façon ou d'une autre, s'adonner à de pareilles violations des droits de l'homme. Nous avons appris avec beaucoup de déception les communiqués, les deux communiqués qui se contredisent. Dans un premier temps, la direction de l'information de l'armée a fait état d'une tentative d'évasion et que ces gens auraient été tués parce qu'ils tentaient de s'enfuir, de s'échapper ou de s'évader. Après, le ministre est venu à la charge en disant qu'il y a eu mort d'homme. Il ne connaît pas les circonstances. Une enquête a été ouverte et que la lumière sera faite. Deux communiqués d'une même autorité, cela nous inquiète. Dans les conflits les plus sombres, dans les guerres les plus difficiles, il est inconcevable que 14 personnes qui tentent de s'évader soient tous tuées en même temps. Ça suscite des interrogations de notre part. Et nous maintenons, jusqu'à preuve du contraire, que ces gens ont été froidement abattus, ils ont été arrêtés, ils ont été exécutés sommairement, comme c'est aujourd'hui le cas dans le centre du pays où notre armée, que nous soutenons, autant nous soutenons l'armée, autant nous dénonçons et nous dénoncerons les exactions qu'elle commet. Parce que ces exactions, c'est l'armée qui est la plus grande perdante. Quand des populations sont frustrées, sont blessées dans leur amour propre.
D'accord, on y reviendra. Mais ceux qui ont été tués, est-ce que c'était les Peuls, les 14 personnes?
Les 14 personnes étaient tous Peuls. Et mieux, ils étaient tous d'une même famille. c'était tous des bas. Donc, ce qui dénote de ce que vous savez, aujourd'hui, l'amalgame va bon train. Le délit de faciès est devenu monnaie courante. Et c'est malheureusement la communauté Peul qui est visée. Loin de moi, tout réflexe communautaire, c'est cette communauté qui est visée. Quand on vient aujourd'hui dans une commune, dans le centre du pays, les militaires se dirigent bien évidemment vers des villages où il y a nos frères et sœurs Peul. Et ils font des arrestations sur la base souvent d'informations infondées. Et malheureusement, dans certains cas, s'ensuit des exécutions sommaires comme nous venons de voir, comme nous l'avons vu à Sokolo, comme nous venons de voir à Djoura.
D'accord, Mohamed El-Béchir Sengaré, vous êtes d'Amnesty International. Vous, que pensez-vous de cette situation?
Bien, c'est vraiment une situation regrettable. Bon, pour le moment, nous nous en tenons toujours au niveau d'allégations, puisque nous n'avons pas d'éléments pour le moment pour vérifier ça. Bon, mais Amnesty a des mécanismes de vérification de ces allégations. Il a parlé tantôt de Dogo, la découverte des charniers du charnier de Dogo a fait l'objet d'un rapport publié par Amnesty International. Mais ça s'est passé après Dogo. Pour le moment, pour nous, c'est des allégations. En tout cas, ce que je peux dire du point de vue des droits humains, les exécutions sommaires, les enlèvements, les disparitions forcées sont des violations du droit international. Et lorsque quelqu'un n'est plus en mesure de combattre, si c'est un combattant, si c'est un groupe armé, il ne peut plus nuire. Donc, lorsqu'on l'exécute, ça devient un crime de guerre.
D'accord. Des exécutions sommaires, y en a-t-il au Mali?
Hein?
Des exécutions sommaires.
Bon, il y a toujours des allégations d'exécutions sommaires. Hein?
D'accord. Mais est-ce qu'il y en a qui sont fondées, faites par l'armée?
Nous ne pouvons pas le dire. Nous ne pouvons pas le dire. Mais le rapport de Dogo a fait état, le rapport d'Amnesty sur la situation de Dogo, le charnier de Dogo, a fait état, parce que le chercheur a entendu près de 70 personnes, dont des membres des autorités. Donc, il a été question d'exécution sommaire, il a été question d'enlèvement de personnes, hein, 9 personnes. 2 Bambara ont été libérés et les 7 qui restent et qu'on ne sait pas où sont, c'est les Peul. Ça, quand même, le rapport qu'on a publié le 3 avril fait état de cela.
D'accord. Je le rappelle encore, nous n'avons pas pu avoir une autorité pour participer à ce débat, mais avant hier, il y a la réaction du ministre de la Défense que nous avons diffusée, que je vous propose de réécouter.
Il faut arrêter de culpabiliser l'armée, arrêter de dire les choses qui ont un caractère tendancieux. L'armée du Mali est là pour tous les Maliens. L'armée du Mali n'est là contre personne. Nous demandons à l'armée d'exécuter sa mission dans le respect strict de la loi. Et lorsque quelqu'un sort de là, il reçoit le traitement approprié et dicté par la loi. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de bavure, puisque je suis informé qu'il y a eu mort d'homme. Il a bien fallu que ceux qui sont morts soient morts d'une manière ou d'une autre. Tous ceux qui auront agi illégalement seront punis par la loi.
Alors, le ministre vous demande d'arrêter de culpabiliser l'armée.
Franchement, moi j'ai bien envie de dire, soyons sérieux, quand on dit que ce ne sont que des allégations, il faut que le gouvernement qui a tous les moyens nous prouve que ces allégations sont fausses. Bon, le ministre, je l'ai entendu, il est dans son rôle de protéger l'armée, mais il arrive...
Puisque les citoyens...
Il est dans son rôle de protéger l'armée, puisque l'armée, dans son rôle conventionnel, c'est de protéger tous les citoyens, sans distinction d'ethnie, sans distinction de race. Le ministre est bien évidemment dans son rôle. Mais c'est scandaleux, parce que le 21 février, à Sokolo, 7 personnes d'une même famille, de ma famille, ont été froidement exécutées. Le charnier a été retrouvé par des bergers Peul, pas par l'armée malienne, pas par les organisations de droits de l'homme, mais par des bergers qui rôdaient dans les parages et qui ont retrouvé ce charnier avec bien sûr des objets appartenant à ceux qui auraient été exécutés.
Et vous pensez que c'est l'armée qui les aurait exécutés?
C'est l'armée qui les a arrêtés. Mmh. Et c'est l'armée qui les a exécutés.
Avez-vous des preuves de ce?
Nous avons bien évidemment des preuves. Mmh. Ils ont été arrêtés à telle heure. Ils ne sont plus revenus. Les objets qui ont été retrouvés près du charnier, ce sont des objets qui leur appartenaient. Ils ont été bien arrêtés par des militaires maliens sur les lieux de cérémonie d'un baptême. Et quand le ministre dit qu'il n'y a pas d'exécution, ça creuve l'œil. Les exécutions sommaires au Mali sont devenues monnaie courante et ça creuve l'œil. Il arrive à peine à reconnaître, il n'arrive même pas à assumer le fait qu'aujourd'hui, il y a un déphasage total entre le commandement militaire, l'encadrement officier et les hommes sur le terrain.
Ah bon?
Il y a aujourd'hui, c'est manifeste. Ces exécutions sommaires le prouvent. Je comprendrai mal, je ne dirai pas qu'il y a des instructions, qu'il faut commettre des exécutions sommaires, mais le comportement des hommes sur le terrain prouve à suffisance qu'il y a un déphasage total. L'encadrement officier fait défaut, permanemment sur le terrain. Donc, nous affirmons, nous mettons au défi le gouvernement de nous apporter des preuves que ces allégations sont fausses. Il y a eu bel et bien exécution sommaire à Sokolo, exécution sommaire à Djoura. Et ça, ce sont des exécutions sommaires que nous avons pu découvrir. Combien il y en a eu? Des dizaines et des dizaines. C'est devenu monnaie courante. Le modus operandi, c'est tuer et faire passer sous silence.
D'accord. Vous demandez à l'armée de vous apporter des preuves
qu'ils nous apportent des preuves
pour démentir
nos allégations.
Vos allégations. Mais est-ce que vous avez apporté des preuves à l'armée pour confirmer vos allégations?
Monsieur Touré, quand des militaires viennent arrêter quelqu'un au vu et au su de tout le monde et qu'après cette personne est tuée, ceux qui l'ont arrêté doivent dire où ils l'ont amené, ce qu'ils l'ont fait. Nous, ce que nous disons, nos parents ont été arrêtés. Et après, nous n'avons plus de traces d'eux. Nous avons retrouvé des charniers, un charnier, dans lequel il y a des objets leur appartenant. Nous n'avons pas les moyens d'organiser une autopsie. Les organisations de droits de l'homme, qui malheureusement font aujourd'hui leur travail dans des difficultés énormes, ils arrivent à peine à travailler, qui ont ces moyens, ne s'investissent pas comme il le faut.
Pareil que vous vous investissez pas comme il le faut.
Comme il le faut, malheureusement.
C'est ce qu'il dit.
Parce que c'est qui est scandaleux?
Quelle est votre version des faits?
Bon, c'est ce qu'il dit. J'ai dit que nous, tant qu'on n'a pas vérifié des choses, on ne peut pas parler de cela.
Pensez-vous qu'ils ont raison d'accuser l'armée d'avoir exécuté?
Ouais, mais ils sont sur le terrain. Et comment dirais-je, ceux qui sont tués sont leurs parents, d'après lui. Et ensuite, il affirme qu'ils ont été arrêtés. Donc, s'ils ont été arrêtés, ceux qui les ont arrêtés vont porter la responsabilité lorsqu'on va les trouver morts, quelle que soit la situation. Bon, mais il s'agit de Djoura, c'est récent par rapport à Dogo. Mais nos chercheurs ont vérifié pour Dogo et ça s'est confirmé avec les témoignages. Il a parlé de cérémonie de choses là, c'est dans le rapport. Oui. Donc, ça c'est pour le chercheur. Mais aujourd'hui, nous sommes venus pour commander Djoura. Mais en tout cas, l'accusation de l'armée d'exaction, c'est un phénomène récurrent. Donc, en général, l'État est champion de dénégation.
Récurrent, mais est-ce que les faits sont récurrents?
Les faits sont récurrents, parce que pourquoi on le dit?
Quand on le dit, l'armée le fait.
Hein?
L'armée exécute.
Oui, mais bon, s'il y a des cadavres, des gens qui sont arrêtés et puis on voit leurs cadavres, bon, ça ne peut qu'être imputé à l'armée. Mais nous, en tant que membres d'Anmissi, nous ne pouvons pas imputer ça à l'armée. Ce que nous devons dire, en tout cas, si tel est le cas, il s'agit d'une violation du droit international. Et l'État a l'obligation de mener des enquêtes, rechercher les auteurs et les traduire devant la justice.
Mais qu'est-ce qui pousse l'armée à faire cela, selon vous? Qu'est-ce qui peut pousser l'armée à exécuter les gens?
Bon, en principe, une armée sérieuse ne doit pas le faire. Vous voyez.
Il y a M. Sarr qui met en doute.
Mais partout, mais par ailleurs, il a été dit que le procureur militaire a été saisi et on espère qu'il va diligenter l'enquête, que ça ne soit pas une enquête de plus.
On espère. Ouais. Est-ce que cela veut dire que vous n'avez pas confiance?
Non, c'est pas qu'on n'a pas confiance. Mais c'est, s'il a été choisi pour mener des enquêtes...
Parce que vous dites une enquête de plus.
Oui, mais...
Parce que les autres enquêtes n'ont pas abouti.
Bon, il y a certaines enquêtes qui n'aboutissent jamais. Mmh. C'est aussi des militaires... Des militaires doivent enquêter sur des militaires.
Absolument.
Donc, là-bas, le bas blesse. Vous voyez? Hein? Et en dehors de ça, il y a beaucoup de gens qui nous saisissent sur des violences des policiers. Ils se plaignent, mais il y a rien. Même aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a saisi pour ça. Donc, c'est pourquoi on dit que ça ne soit pas une enquête de plus.
Concernant l'encadrement au sein de l'armée qui ferait défaut selon M. Sarr, qui pourrait également être, si c'est le cas, une des raisons de ces exécutions, est-ce que vous aussi, vous avez fait ce constat, qu'il y a un problème au niveau de l'encadrement?
Bien, pour nous n'allons pas jusqu'à dire qu'il y a un problème au niveau de l'encadrement. Nous ne sommes pas militaires. Nous ne savons pas comment c'est organisé. Mais ce qui est sûr, avec la crise, l'absence de l'État, eh bien, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout.
D'accord. Oui. Monsieur Sarr, pourquoi vous pensez aujourd'hui qu'il y a un problème au niveau de l'encadrement de l'armée?
Bien évidemment, le comportement des hommes sur le terrain.
Est-ce que vous pensez que les peuls sont visés aujourd'hui?
Comment ne pas avoir la conscience heurtée? Que quand des citoyens qui doivent être protégés par leur armée sont arrêtés par celui-ci et après disparaissent et on se rend compte plus tard qu'ils ont été tués par la main qui, en principe, doit les protéger.
Est-ce fait exprès?
Bien sûr. Aujourd'hui, l'amalgame, c'est le constat. Nous sommes devant la triste réalité de l'amalgame peul égal à terroriste. Le délit de faciès. Ce sont des villages peul qui sont visés. À Finadjé, des militaires sont allés faire une réunion avec des Bambaras. Ils ont exclu les Peuls. Quand les Peuls ont demandé à participer à cette réunion, on dit non, c'est une réunion avec des Bambaras. Parce qu'il y a cette stigmatisation-là. Vous savez, moi je suis de ceux qui pensent quand on n'identifie pas un problème, quand on ne reconnaît pas un problème, on ne peut pas le résoudre. Il faut qu'ils reconnaissent qu'il y a aujourd'hui l'amalgame qui a atteint des proportions insoupçonnées. Les délits de faciès est en train de prendre des proportions que vous n'imaginez pas, vous et moi. Donc, nous sommes face à cette triste réalité. Il faut reconnaître les problèmes. Ensuite, trouver des solutions.
Mais pourquoi l'armée, les Peuls? Pourquoi pas les Dogons, les Bambaras, les autres ethnies? Pourquoi les
Hier, Peuls? C'était les Arabes. C'était les Touaregs. Aujourd'hui, ce sont les Peuls. Demain, ce sera qui? Je dis qu'il y a des terroristes. Les terroristes sont dans toutes les communautés. Les terroristes qui sont aujourd'hui arrêtés par nos forces de défense et de sécurité qui se trouvent dans les prisons, allez-y. Vous allez trouver des Dogons parmi eux. Vous allez trouver des Bambaras. Vous allez trouver des Malinkés parmi eux. Ce ne sont pas que des Peuls. Donc, les bandits armés, les terroristes doivent être neutralisés, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa couleur. Ils doivent être neutralisés. Mais attention, on ne doit pas céder à la facilité de l'amalgame. Parce que quand on n'a pas les capacités de vérifier, d'enquêter, eh bien, on s'adonne à des exécutions sommaires et c'est l'amalgame qui l'emporte. Aujourd'hui, vous avez tous vu à la télé, le conseiller spécial ou c'est le chargé de mission du président de la République, Ismaël Sacko, a déclaré que les dozos peuvent se substituer à l'armée pour assurer la sécurité. Que les dozos, je le cite, maîtrisent les questions de droits de l'homme. Et il est toujours à son poste, il est toujours auprès du président de la République. Alors comment comprendre ça? Dans un pays où un responsable de sa carrière, un responsable de son niveau, ça donne à des déclarations tendancieuses de ce genre, et bien évidemment, on ne peut plus rien espérer de ce gouvernement. Et il y a une velléité manifeste de semer le chaos. Ces déclarations l'attestent.
D'accord. Je rappelle que nos tentatives pour compter parmi nous un responsable du gouvernement et un responsable de l'armée malienne sont restées vaines. Nous avons tenté, nous n'avons pas pu. Nous avons comme invité pour parler de ce thème du débat qui est « Que s'est-il réellement passé à Djoura la semaine dernière ?» Nouhoum Sarr de l'association Tabital Poulakou et Mohamed El Béchir Senghare d'Amnesty International. Monsieur Amnesty International, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'une enquête est ouverte par rapport à cette situation, à cette question?
Bon, ça a été dit officiellement. Ça a été dit officiellement. Nous pouvons que nous en tenir à ça. Parce que nous ne faisons pas cette enquête à la place du procureur. Mais dans tous les cas, une enquête doit avoir un dénouement. Maintenant, il y a le temps qui peut peut-être édifier, mais l'ouverture de l'enquête n'empêche pas aux défenseurs des droits humains de faire pression pour que la vérité soit faite.
Êtes-vous d'habitude impliqué dans ces différentes enquêtes, les associations de défense des
droits? Bon, pour le cas d'Amnesty précisément, lorsqu'il y a des choses pareilles, il y a des spécialistes, des experts, qu'on appelle des chercheurs internationaux, qui viennent. Et ils viennent légalement. Ils cherchent toutes les autorisations, ils vont sur le terrain.
Nous n'avons pas des experts maliens neutres qui peuvent résoudre cette question?
Non, bon, je parle d'Amnesty International.
Okay.
Donc, ce sont eux qui doivent faire ces recherches-là et publier le rapport. Et c'est ce qui est fait en général. Mais il y a des allégations lorsque on est saisi de cela. Mm-hmm. Eh bien, à notre niveau, nous pouvons aller vérifier ces allégations. Et moi, je suis d'ailleurs celui qui va.
D'accord, pour ces questions. Oui, monsieur Sarr ?
Nous ne demandons rien d'autre qu'une enquête indépendante. Il l'a dit. Le procureur militaire a été saisi, c'est un militaire, pour faire la lumière. Je vous prédis que ce sera une enquête biaisée, totalement biaisée.
Pourquoi ?
Nous avons des juridictions, nous avons la Commission nationale des droits de l'homme, qui a une capacité d'enquête. Qu'elle soit associée. Nous avons des organisations internationales de droits de l'homme, Human Rights Watch, Amnesty International, la FIDH, peuvent être associées. Donc, nous demandons une enquête indépendante pour confirmer ce qu'ils appellent allégation. Parce que nous sommes convaincus, nous avons tous les éléments à notre disposition qui attestent que ce sont des exécutions sommaires.
Et en étant déjà sûr que ce sera une enquête biaisée, quel que soit le résultat déjà, est-ce que vous n'allez pas penser que c'est une enquête biaisée? Est-ce que pour cette fois-ci, vous ne pouvez pas avoir confiance?
Non, pas du tout. Parce que le 21 février, quand nous avons saisi les autorités, le communiqué du gouvernement faisait état de l'ouverture d'une enquête. Nous sommes aujourd'hui le 10 avril. Presque 2 mois. Le gouvernement a été incapable de nous dire ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu mort d'homme? Est-ce qu'ils ont été assassinés froidement? Qui a fait quoi? Quels sont les militaires qui étaient en poste au moment de leur arrestation? Quel est le capitaine, l'officier qui a donné les instructions de les tuer? Le gouvernement est incapable.
Ne serait-ce pas dû à la complexité de la situation?
Non. Vous savez, l'armée, en tout cas les armées, qui fonctionnent normalement sont très bien structurés et organisés. On sait à quelle heure, à quel moment, à quel temps T, à quel instant précis, qui est où et qui fait quoi.
Mais vous mettiez en cause tout de suite l'encadrement au niveau de l'armée.
Non, je dis dans une armée organisée et structurée. Le fait que la hiérarchie militaire, le ministre de la Défense, le gouvernement du Mali peinent à dire ce qui s'est passé réellement, peine à retrouver les auteurs et à les sanctionner, veut dire qu'ils n'ont aucun contrôle sur les hommes sur le terrain. C'est ça la réalité. Il y a un déficit total d'encadrement officier dans notre armée. C'est ce qui dénote Bien évidemment, on ne dit pas qu'il y a des guerres, il existe des guerres où il n'y aura pas de bavures. Mais quand il y a bavure, il faut qu'il y ait sanction. Nous avons le droit à l'information, à la vraie information. Nous avons le droit à la vérité. Jusqu'à l'heure où nous
Monsieur
émettons,
Sarre,
les corps
façon,
n'ont pas été restitués aux familles. Les familles n'ont pas fait leur deuil. Ils ne savent même pas où se trouvent les corps.
De la même façon que vous êtes convaincu que ce sont des exactions faites par l'armée, êtes-vous en même temps convaincu que ceux qui sont tués ne sont pas des djihadistes?
Je ne suis pas convaincu qu'ils ne sont pas des djihadistes parce que tout individu a droit à la présomption d'innocence. Je ne suis pas contre qu'on arrête des personnes. Quand on arrête les personnes, il faut investiguer si il s'avère que certains sont terroristes, qu'ils soient sanctionnés conformément aux lois en vigueur. S'ils ne sont pas terroristes, qu'ils soient libérés. Quand j'ai été appelé par des parents du village que l'armée vient d'arrêter cette personne, je dis, bon, il n'y a pas de problème, dans un état de droit, on peut arrêter tout le monde. Et si on vous arrête, s'il s'avère que vous n'avez rien fait, vous serez relâché. Mais s'ils ont fait quelque chose, ils seront punis conformément aux lois de la République. Mais après, c'est un communiqué d'un parti politique qui informe l'opinion nationale et internationale qu'il y a eu exécution sommaire. Un parti politique en République du Mali. L'État avec tous ses moyens, le gouvernement avec tous ses ministres, avec tous ses canaux d'information, il n'était pas capable de dire à l'opinion nationale et internationale qu'il y avait eu exécution sommaire. C'est après nos efforts de contact avec le ministre et avec les autorités. C'est après que nous les ayons rencontrés qu'ils ont fait un communiqué. Un communiqué laconique, totalement irresponsable, qui dit qu'il y a eu, au cours de l'opération Dambé, il y a eu des morts d'hommes, comme s'il y a eu des affrontements. Comme si l'armée est venue, on a tiré sur eux, et ils ont répliqué, il y a eu des morts d'hommes. Ils ont été incapables de reconnaître dans leur communiqué que les FAMA ont arrêté, un détachement des FAMA ont arrêté cette civile, ils les ont amenés et ensuite ils sont morts. On peut adoucir, mais on ne peut pas cacher la vérité qui creuve l'œil.
D'accord, Monsieur Senghare, pensez-vous comme Monsieur Sarr qu'on est en train d'essayer de cacher la vérité?
Bon, je ne suis pas dans la même logique que lui, puisque bon, on le comprend, il est de la communauté, et ce sont ses parents. Et donc c'est normal que il n'y ait plus de détails à donner et qu'il n'y ait plus d'appréhension sur tel ou tel aspect de la chose.
Est-ce que ce lien de parenté peut impacter sur sa version des faits négativement?
Bon, je ne suis pas magistrat. Je me garde de juger ça. Mais comme je vous l'ai dit, ce qui nous intéresse, nous, ce qui est sûr, il y a eu des charniers. Ce qui est sûr, il y a des disparitions forcées. Ce qui est sûr, il y a eu 14 personnes qui ont été exécutées. Tu vois. Mais si on les retrouve morts...
Tout cela est sûr, mais est-ce que c'est sûr que ces exactions ont été faites par l'armée?
C'est ça l'obligation de l'État, de faire en sorte qu'il y ait la vraie information. De faire en sorte que et les circonstances de l'exécution soient connues. Et si il s'est avéré qu'ils ont été exécutés par l'armée, c'est une violation du droit international. D'accord. C'est même un crime de guerre. D'accord. Donc les auteurs doivent être punis.
Permettons à nos auditeurs et téléspectateurs de mieux comprendre. Monsieur Sarr disait tout de suite qu'il est possible que ces personnes qui ont été exécutées soient des terroristes, des djihadistes.
Oui.
Alors s'ils sont des djihadistes, des terroristes qui ont tué des personnes, est-ce qu'ils méritent d'être tués?
Bon, moi je vous l'ai dit depuis le début du quand quelqu'un est déjà arrêté, il est dans une situation où il ne peut plus nuire. Eh bien, on doit le remettre à la justice.
Et s'il tente de s'enfuir?
Hein?
Et s'il tente de fuir?
Bon, les militaires ont leurs moyens pour l'arrêter.
Il semblerait que ceux qui ont été exécutés tentaient de s'enfuir.
Bon, c'est ce qui a été dit.
Si c'est le cas, est-ce que ces exactions peuvent être...
On ne doit pas les abattre. quels que soient les...
Même s'ils tentent de s'enfuir.
Même s'ils tentent de fuir, on ne doit pas les abattre. Si c'est un combat, si c'est dans le combat, il n'y a pas de problème.
Mais M. Sangaré, si ce sont des djihadistes qui tentent de fuir aujourd'hui, s'ils arrivent à fuir, est-ce qu'ils ne vont pas commettre d'autres actes?
Mais l'armée est là pour assurer la sécurité. Ils sont, aujourd'hui, c'est leur vocation de traquer tous ces terroristes-là. Parce que moi, je ne parle pas de djihadistes. Moi, je parle de terroristes. Et le Premier ministre m'a promis de les chercher, de les rechercher dans leur dernier retranchement et de déployer des militaires dans les zones qui ne sont pas sécurisées. Bon, il y a des témoignages qui disent que, bon, effectivement, il y a un, comment dirais-je, l'armée est en train de se déployer progressivement. Bon, qui ait des efforts peu ou prou, mais les gens constatent quand même, en tout cas, d'après certains témoignages, il y a des efforts de revenir. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas se stabiliser sur un coin, parce que lorsqu'ils sont ici, ils font 2 ou 3 jours, dès qu'ils partent, ces gens-là reviennent. Donc, la complexité même du problème vraiment rend difficile, n'est-ce pas, un certain nombre de jugements. Donc, je peux dire seulement que l'enquête qui est menée doit avoir un dénouement. Et le dénouement de l'enquête, c'est de rechercher les auteurs qui ont exécuté, n'est-ce pas, ces 14 personnes et de les traduire devant la justice.
D'accord, M. Sangaré, permettez-moi de rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs que nous avons voulu avoir un représentant de l'armée ici sur place pour équilibrer le débat, mais nos tentatives sont restées vaines. M. Sarr, vous vouliez réagir.
Ma motivation à dénoncer ces crimes ne vient pas de mon appartenance à quelque communauté que ce soit. Cela vient de mon attachement profond à l'état de droit, à la justice, à l'équité et au droit. Partout où il y a injustice, SAR sera là pour dénoncer avec la dernière énergie, quel que soit le prix à payer.
Et vous êtes convaincu qu'il y a eu injustice?
Donc, je suis convaincu qu'il y a eu injustice parce qu'il y a eu exécution. Ce que l'on ne dit pas, c'est que les exécutions sommaires depuis près de 5-6 ans sont devenues des méthodes au sein de l'armée nationale. Les bédéos rouges
ont été arrêtés. Méthode, est-ce que c'est devenu dire que l'armée fait ça par plaisir?
C'est devenu une méthode. Mm-hmm. Depuis 2012, les bédéos rouges ont été exécutés, ont été arrêtés, filmés, ensuite exécutés à Diabo. Mm. Jusqu'aujourd'hui. Bon.
Qu'est-ce qui les pousse à faire ça, l'armée?
Je dis encore une fois, c'est l'encadrement officier. C'est l'encadrement officier. Et vous voyez, rien ne se suit, aucune sanction ne tombe. Hein, ça se fait depuis quand? Depuis combien de temps on exécute les gens? Les gens se taisent, finalement les gens ont décidé de ne plus se taire et ont décidé de dénoncer. Mais des sanctions ne suivent pas parce que ces chefs militaires, que les jeunes ne portent pas dans leur cœur, ces chefs militaires qui sont...
Que les jeunes militaires ne portent pas dans leur
cœur. Bien sûr, il y a un déphasage aujourd'hui. Il y a un déphasage entre les officiers et les hommes sur le terrain. Ils ne peuvent pas les sanctionner.
Mais comment vous pouvez savoir cela? Comment vous pouvez expliquer cela?
Mais je vous dis que c'est un détachement de l'armée qui a arrêté cette personne à Sokolo, qui ensuite les a exécutés sommairement. Ce détachement existe toujours avec les mêmes hommes. Aucun officier, aucun sous-officier n'a pu sanctionner qui que ce soit.
Vous dites qu'il y a un problème au niveau de l'encadrement,
il y a un problème d'encadrement.
Les jeunes militaires ne respectent pas, entre guillemets, comme vous le dites, leur hiérarchie. Qu'est-ce qui vous fait dire cela?
Ce qui me fait dire, c'est qu'il n'y a pas de sanctions. Ils le font parce qu'ils savent que ce n'est pas cette hiérarchie-là qui peut les sanctionner. Ils n'ont pas confiance à ces gens. C'est ça la vérité. Les militaires sont sur le terrain. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont sur le théâtre d'opération. Le ministre l'a dit dans la bande sonore que nous avons écoutée, que ce n'est pas ça leur instruction. Donc ça veut dire que vos instructions ne sont pas respectées. Quand des militaires ne respectent pas les instructions de leur hiérarchie, c'est qu'ils ne les respectent pas. C'est facile à déduire.
Mais ça peut arriver même dans une famille. Ça peut arriver une fois. Ça peut arriver une fois. Pas réellement dire qu'il y a un problème au niveau de l'encadrement.
Ça peut arriver une fois, deux fois, trois fois, mais de façon infinie et permanente. C'est le cas. Ça traduit indéniablement un manque de respect vis-à-vis de l'encadrement officier. C'est ça la vérité.
Monsieur Senghare, pensez-vous que c'est infini, que c'est une situation récurrente au Mali, comme le pense Monsieur Sarr?
Bon, quand même, l'impunité, personne ne peut nier que l'impunité est un phénomène.
Mais les exactions qui seraient faites par l'armée, si c'est le cas, est-ce récurrent au Mali?
Bon, ce que j'ai dit, et les rapports, d'abord, on a eu un rapport sur ça. Et même le représentant spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme, dans son rapport, il a fait état de disparition forcée et d'exécution extrajudiciaire. Le rapport de l'aménagement aussi l'a été.
Alors jusqu'où cette situation peut-elle nous conduire?
Hein?
Jusqu'où peut-elle nous conduire?
Ben,
si les populations pensent que
le chaos, parce que dans un climat d'insécurité comme ça, mais le premier atout même, n'est-ce pas, c'est-à-dire le premier atout de l'armée, c'est les populations. Mais si les populations n'ont pas confiance en l'armée, ou bien les populations estiment que l'armée l'armée fait des exactions sur la population, comment ils peuvent collaborer avec l'armée? Alors que la sécurité commence par soi, la sécurité de soi-même. Et aucune armée ne peut sécuriser un village ou bien un territoire tant qu'il n'y a pas l'apport de la population. Donc, s'il y a ce climat, n'est-ce pas, d'adversité ou de méfiance entre l'armée et la population, ça ne fait qu'accentuer la chose. Et c'est déjà un terreau où, n'est-ce pas, ces terroristes-là profitent pour pouvoir recruter. Et ça sera très dommage.
Aujourd'hui, il y a un exemple palpable. C'est le cas de Nampala. Le commandant de zone à Nampala est un militaire exemplaire qui fait honneur à l'armée.
Qu'est-ce qui vous fait dire cela?
Bien sûr, parce que le commandant militaire de Nampala est en contact permanent avec la population, sans distinction d'ethnie, de communauté. Et il travaille avec la population permanemment. Il démontre à suffisance que l'armée est là pour la population. Ça fait longtemps que vous avez entendu qu'il y a des attaques à Nampala, hein? Ça fait longtemps.
Et pensez que c'est dû à cette collaboration?
C'est dû au comportement de l'officier qui dirige la troupe à Nampala. Parce qu'il est permanemment avec les élus, avec la population. Il les écoute, il les assiste. Les terroristes ont peur d'une armée qui porte que la population porte dans son cœur. C'est ça la vérité. Vous avez dit jusqu'où cette situation peut nous amener? Eh bien, évidemment, je ne suis pas quelqu'un qui cache souvent ses sentiments, qui fait la langue de bois. Cette situation, malheureusement, M. Touré, peut nous amener là où elle a amené le Rwanda. Cette situation peut nous amener là où elle a amené la Sierra Leone,
c'est-à-dire,
et le Libéria. Au Rwanda, c'était la stigmatisation des Tutsis. Et quand l'avion du président Habyarimana a été abattu, sans chercher à savoir qui a abattu cet avion, on s'est jeté sur les Tutsis et s'en est suivi l'un des drames du XXIe siècle. Je ne souhaite pas cela pour notre pays.
Mais est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui également? Est-ce que sans chercher à comprendre, l'association Tabital Poulakou parmi tant d'autres n'est pas en train d'accuser l'armée également alors qu'il n'y a pas d'enquête?
L'association Tabital Poulakou ne parle que sur les faits. Les faits sont têtus et les faits sont incontestables. Il y a eu arrestation, à Sokolo, il y a eu arrestation à Djoura, ensuite il y a eu mort d'hommes.
Mais on ne sait pas
les
qui a tué.
Les morts d'hommes ont été reconnus. Mais dans le communiqué, c'est reconnu que c'est l'armée qui a tué.
D'accord.
Elle a même justifié pourquoi elle a tué. Elle a tué parce qu'il y a tentative d'évasion. Donc,
Et vous, vous pensez qu'il n'y avait pas tentative d'évasion?
Franchement, le dernier de la classe comprendra qu'il n'y avait pas tentative d'évasion.
Comment?
Une tentative d'évasion, 14 personnes. Et les 14 personnes, on les tue. Comment ça? L'armée américaine, l'une des plus puissantes au monde, n'est pas arrivée à faire cela. Tenter de s'évader, 14 personnes, on tue tout le monde. Qu'on tue une personne, oui, tentative d'évasion, nous dirons, bon, c'est acceptable. Deux personnes, trois personnes, 14 personnes arrêtées, 14 personnes tuées, ce n'est pas une tentative d'évasion, ce sont des exactions sommaires, purement et simplement. Il ne faut pas avoir peur de le dire. L'enquête, si elle est transparente, si l'enquête est impartiale, elle va le prouver facilement. Les familles des personnes sont là. Elles ont peur de parler parce qu'elles ont peur de représailles. Aujourd'hui, ce sont des Bambara qui parlent au nom des peuples à Djoura. Radio Clédou, lors de son journal d'hier, c'est un Bambara qui a témoigné pour dire que les gens sont martyrisés, ils ne peuvent même pas parler. On exécute leurs parents comme on tue des mouches. Et le dire, ce n'est pas que je suis contre notre armée. Non, loin de là. Tous ceux qui soutiennent l'armée doivent dire qu'elle est la première perdante dans les exactions.
Alors, qu'est-ce qui peut mettre fin à cette situation aujourd'hui?
Ce qui peut mettre fin à cette situation, c'est la formation, c'est l'encadrement officier. C'est bien sûr la fin de l'impunité. Tout militaire qui exécute sommairement un civil doit être traduit devant la cour martiale et jugé conformément au texte et qu'il soit sanctionné. Vous verrez, quand on va sanctionner un militaire, deux militaires, trois militaires, les autres vont réfléchir deux fois. Parce que rendre service à notre armée, c'est l'aider à respecter les droits de l'homme. Rendre service à notre armée, c'est l'aider à se comporter en véritable professionnel. Rendre service à notre armée, ce n'est pas soutenir aveuglément, je soutiens notre armée. Je soutiendrai une armée nationale. C'est notre armée, c'est l'armée des Bambara, des Peuls, de toutes les ethnies confondues. Ce n'est pas l'armée d'une ethnie contre une autre, c'est l'armée de tout le monde. Mais je soutiendrai cette armée quand elle assurera sa fonction dans le respect des principes de la République, dans le respect des valeurs de la République. Je ne soutiendrai pas une armée qui exécute sommairement parce que on a dit ce sont des terroristes sans aucune preuve matérielle. Même quand on a des preuves contre des terroristes, on ne les exécute pas. Les Américains, combien de terroristes sont à Guantanamo avec
D'accord. Pensez-vous qu'on a une chance pour que ça finisse rapidement en 30 secondes?
Bien sûr, nous avons une chance que ça finisse si la gouvernance arrive à s'assumer. Si les chefs militaires arrivent à s'assumer et à sanctionner les militaires, les auteurs de ces exactions. S'ils ne le font pas, et bien sûr...
Les présumés auteurs,
S'il n'y a pas sanction, et c'est la boîte à Pandore, c'est bien sûr la situation dramatique que nous allons continuer à vivre.
D'accord à vous, Mohamed El Béchir Senghare. Qu'est-ce qui peut mettre fin à cette situation aujourd'hui?
Bien, j'aimerais dire aussi que les exactions ne sont pas seulement que l'armée. Les groupes armés aussi ont tué près de 65 personnes par des explosifs improvisés. Ils s'attaquent, n'est-ce pas, aux forains. Ensuite, aujourd'hui, ne serait-ce que dans la région de Mopti, il y a 400 écoles qui sont fermées. Les directeurs d'école sont... D'ailleurs, quand je rentrais dans le studio, j'écoutais le témoignage de quelqu'un qui avait été recherché à l'école. Il n'était pas là-bas, donc c'est son adjoint qui était là-bas. Donc on leur a dit de ne pas continuer l'école. Et ils ont été obligés, d'ailleurs ils ont tout saccagé, ils ont été obligés de
D'accord,
aller.
En 30 secondes, mais, on n'a plus beaucoup de temps.
Donc,
30 secondes,
mais pour que cela
la solution,
finisse,
oui.
Pour que cela finisse, eh bien, moi je n'aurai pas ça, le bout du tunnel du jour au lendemain. Parce que c'est un problème global. Donc, d'abord, il faut que la sécurité, la confiance renaisse entre les communautés. La situation de belligérance cesse entre les communautés. Et que la confiance renaisse entre les populations et les corps de sécurité.
D'accord, désolé, on n'a plus assez de temps. La confiance, selon vous, c'est ce qui est le premier pas pour pouvoir mettre fin à cette situation. Et c'est ce qui met fin également à cette émission, le Grand Dialogue, qui avait pour thème « Que s'est-il réellement passé à Djoura ?» La semaine dernière, nos invités, Nouhoum Sarr de l'association Tabital Poulakou et Mohamed El Béchir Sengaré d'Amnesty International. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani à la régie audio Nouhoum Djiré, régie vidéo assurée par Mamadou Ouattara. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri, Haloud Mouni.
Chenne Beri, Sigi Kafoba.